sur RDL 103.5. Vous écoutez Et sinon la famille, ça va? L'émission qui explore la famille sous toutes ses facettes, animée par Olivier Garabet, généalogiste, enquêteur, biographe.
Allez, c'est parti, on embarque dans le train de la saga familiale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RDL 103.5 et dans Sinon la famille ça va, l'émission qui accompagne et qui questionne les parents et la famille tout entière dans les petits et grands défis du quotidien. Pour cette première émission, nous allons parler d'un sujet qui concerne un grand nombre de familles, à savoir qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui? Dans certaines maisons, on court déjà après le temps, un cartable qu'on recherche, une chaussure qui manque, un petit déjeuner avalé trop vite. Dans d'autres, la journée commence doucement avec un enfant encore endormi sur l'épaule d'un parent. La parentalité se vit souvent dans ces moments-là, dans l'ordinaire des matins pressés, dans les devoirs du soir, dans les colères au supermarché ou dans ces instants plus silencieux où l'on regarde son enfant grandir sans trop savoir si l'on fait des choses de manière juste ou pas. Car être parent aujourd'hui, c'est souvent avancer dans un mode sans mode d'emploi, entre les conseils des spécialistes, les souvenirs de sa propre enfance et les attentes d'une société qui change. Beaucoup se posent la même question, parfois à voix basse. Comment bien faire? Faut-il être ferme, être à l'écoute, poser des règles strictes ou privilégier le dialogue? Et surtout, comment trouver cet équilibre entre l'autorité et la bienveillance? Durant ces prochaines minutes, nous allons prendre le temps de raconter la parentalité telle qu'elle se vit réellement, avec des doutes, des fantômes, ses tâtonnements, ces petites victoires du quotidien. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Roselyne Wagner et Émilie qui vont nous accompagner toute cette heure pour nous parler, Émilie de son expérience et Roselyne de son regard expert. Bonjour. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors Roselyne, vous êtes une professionnelle engagée, véritable alliée des enfants et des familles, pharmacienne de formation et diplômée en psychologie. Vous avez choisi de mettre ces compétences au service des enfants et de leur futur, entre guillemets, parents, en devenant hypnothérapeute spécialisée. Fondatrice de l'espace Helios, une maison de la parentalité à Erstein dans le Bas-Rhin, vous réunissez des professionnels autour d'un même objectif, accompagner les parents, les enfants et les adolescents du désir d'enfant jusqu'au défi de l'adolescence. À travers des ateliers et des accompagnements individuels, vous offrez aux familles des outils concrets pour leur quotidien. Très investi dans les questions éducatives et sociétales, vous abordez aussi des sujets sensibles comme le harcèlement scolaire, la gestion des émotions chez les adolescents ou le deuil périnatal. Votre approche se distingue par une volonté forte, redonner aux enfants et aux jeunes leur capacité à agir, à s'exprimer et à trouver leur place. À travers vos interventions, vos formations et vos ateliers, vous défendez une parentalité plus consciente, mieux outillée et profondément respectueuse du développement de l'enfant. Voilà, ça c'est un premier portrait de nos invités. Et puis Émilie, vous avez 43 ans et vous êtes maman de Zoé qui a 11 ans aujourd'hui. On va lui fêter son joyeux anniversaire parce que quand même sa maman qui vient témoigner en direct sur les ondes le jour de son anniversaire, c'est quand même une bonne nouvelle et je vous remercie de votre venue.
Merci à vous et merci pour elle.
Avant d'aller dans le vif du sujet, je propose que nous écoutions un sketch de Raymond Devos qui s'intitule « Les enfants ».
Il y a des gens qui restent très enfants. Écoutez, l'autre jour, comme je m'apprêtais à traverser la rue, il y a une dame qui s'apprêtait à le faire aussi, qui se tourne vers moi et qui dit « Oh, le beau petit garçon !» J'ai cru qu'elle s'adressait à un enfant qui devait se trouver derrière moi, que je devais cacher. Pas du tout, c'était de moi qu'il était question. Elle me dit « À ton âge, ton papa te laisse sortir tout seul ?» Je dis « Madame, il y a longtemps que je n'ai plus mon papa. » « Oh, elle dit, pauvre petit, donne-moi la main, je vais t'aider à traverser la rue. » Je dis « Madame, vous vous méprenez, je ne suis plus un enfant. » Elle dit « Vraiment ?» Je dis « Enfin, madame, voyez ma corpulence, ma taille, je suis gros !» Elle me dit « Mais il y a des petits gros. » Je dis « Moi, je suis un grand gros, madame. Un petit gros, il est petit. Il est peut-être gros, mais petit. Vraiment, enfin. » Elle a fini par m'avouer que comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle ne savait pas ce que c'était. Je dis « Enfin, madame, à votre âge !» Elle me dit « Mais quel âge me donnez-vous donc ?» Moi, je lui donne entre 30 et 35 ans. Elle me dit « Je viens tout juste d'en avoir 5. » J'ai dit, à ton âge, ta maman te laisse sortir toute seule. Oh, elle me dit, en tant que j'ai plus ma maman. Oh, j'ai dit, pauvre petite, donne-moi la main. Et puis je l'ai aidé à traverser la rue. Alors de l'autre côté de la rue, comme ça, comme je lui lâchais la main, elle a pris la mienne et elle m'a accompagné jusque devant chez moi. Alors devant chez moi, comme elle me lâchait la main, je l'ai prise par le bras comme ça, puis je l'ai accompagnée jusque devant chez elle. Et ce petit jeu a duré des mois. Des mois. Alors vous me direz, à quoi jouiez-vous ? À des jeux fort innocents. Hein. Tantôt à la dinette, tantôt au cerceau, le plus souvent à la marraine. Jusqu'au jour où elle m'a proposé de jouer au papa et à la maman. J'ai dit, écoute, nous sommes encore un peu jeunes pour jouer à ce petit jeu-là. Alors, elle était toute triste, toute attristée. Alors, je lui ai promis que plus tard, quand on serait grand, on se marierait. Oh ! Elle était toute heureuse. En attendant, je lui ai offert une poupée pour qu'elle se familiarise. Tout doucement. Alors, quand on dit qu'il n'y a plus d'enfants, des petits peut-être, mais des grands, nous sommes toute une flopée.
Merci Raymond DeVos pour ce magnifique sketch. Alors Roselyne, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui et comment être parent en 2026 ? Voilà, entre le travail, les obligations, la fatigue et cette responsabilité immense, comment accompagner un enfant qui grandit ?
Alors c'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de poids qui repose sur les épaules des parents. On peut se dire que les attentes envers les parents ont peut-être changé. C'est aussi à mettre en regard avec l'évolution des connaissances scientifiques qu'on a sur le développement des enfants. Juste pour rappel, on a considéré que les enfants pouvaient avoir mal à partir des années 80. On a vraiment développé des techniques d'anesthésie pour les enfants en chirurgie. À partir des années 90, c'est pas si vieux que ça. Donc, on a vraiment un regard qui évolue. Et du coup, bah forcément, on va attendre des parents bah, qui s'ajustent à ses connaissances. Donc, il y a une grosse responsabilité qui pèse sur les épaules des parents. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est peut-être plus criant aujourd'hui au rythme auquel va notre société. C'est les parents qui ont besoin de soutien. Et que par rapport à il y a quelques dizaines d'années, qu'on a peut-être moins aujourd'hui.
Et donc, vous parliez, je reviens sur l'année 80-90, sur la question de la douleur. Comment ça se passait, en fait, finalement
On opérait sans anesthésie, c'est tout.
Oui. Ça, c'est quand même, vous vous rendez compte, moi je suis né en 1972, et si j'avais été opéré, ça aurait été sans anesthésie. Ça, c'est quand même un fait historique assez important à soulever, parce qu'on se rend compte que finalement, la question de la douleur, elle est prise en charge de manière très tardive. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que depuis les années 90, cette question-là, la douleur, a été traitée de manière plus fine ?
Mais en fait, ce qui est traité de manière plus scientifique, on va dire, c'est vraiment le regard qu'on porte sur l'enfant, et on le voit comme un être humain en développement, et pas comme un tube digestif, simplement.
Alors, dans votre pratique, est-ce que vous avez observé, ou doit-on opposer fermeté et compréhension dans votre... Comment vous saisissez, en fait, les problématiques que vous rencontrez au quotidien avec vos clients, vos patients ?
Mes clients, oui. Alors, c'est le mot fermeté est à géométrie variable, j'ai envie de dire, en fonction des familles. Dans certaines familles, ça va être quelque chose de très très strict qui vont pas du tout laisser de place à la discussion. Dans d'autres familles, la fermeté va être sur des choses qui sont non négociables, comme la sécurité physique, hein, par exemple. On va pas laisser son enfant de 2 ans traverser la route tout seul, etc. Donc plutôt que de voir si le mot fermeté et compréhension s'opposent, faut plutôt voir comment on peut mêler à la fois l'écoute de l'enfant dans son bon développement, en fait. Et les scientifiques, en fonction de comment on répond aux enfants, ont défini différents types d'éducation parentale. Ils ont pris en compte le niveau de réponse aux besoins de l'enfant, notamment les besoins émotionnels, mais aussi le niveau d'attente des parents, donc ce qu'on peut dire le cadre, les limites, c'est un mot quand même qu'on aime bien en France. Et en fonction de comment tous ces curseurs sont positionnés, on a soit un style d'éducation qu'on va dire autocratique, et là on a un cadre très strict, très rigide, et on va pas prêter beaucoup attention aux besoins de l'enfant.
Ok, vous pouvez nous donner un exemple d'un cadre autocratique ?
Ça va être un enfant qui, par exemple, un petit enfant qui n'arrive pas à monter un jeu, qui s'énerve de frustration parce qu'il n'a pas simplement pas la capacité à la fois développementale de faire ce petit jeu, et du coup, cette frustration le submerge. Du coup, il va, dans le langage courant, piquer une crise, et le parent va dire « va te calmer dans ta chambre ». Il n'y a aucune prise en compte du besoin de l'enfant qui était de réussir à faire quelque chose. Il n'y a aucune prise en compte de son émotion qui arrive à ce moment-là. Mmh. C'est « j'ai décidé, point
». Donc on continue dans les quatre sites d'éducation parentale que vous avez commencé à décrire.
Du coup, complètement à l'opposé, on va trouver le style désengagé, pas de cadre et pas de réponse aux besoins de l'enfant. Donc là, ça va être l'enfant qui fait à la fois complètement, enfin qui est laissé entre guillemets à l'abandon, ouais, un style désengagé. Et puis, il y a quelque chose qui fait très peur aux parents aujourd'hui, c'est le style qu'on appelle permissif, on va appeler ça du laxisme aussi, c'est quand il n'y a pas de cadre, mais qu'on a une très forte réponse aux besoins de l'enfant. Quand on regarde dans les faits, il n'y a pas tant de familles que ça qui appliquent ce cadre-là, même si c'est quelque chose qui est inquiète. Il faut savoir que les trois premiers styles que je viens de décrire, on sait qu'ils sont à risque pour l'enfant de développer plus tard divers troubles psychologiques. En fonction des styles, on va avoir soit un manque de confiance en soi, des difficultés à nouer des relations. Ça peut être des choses très très variées. Et le quatrième, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va dire, c'est le style démocratique où à la fois il y a un cadre, on sait ce qui est important de respecter et en même temps on prend en considération les besoins de l'enfant. Ça va permettre le développement de son estime de lui, sa confiance et son autonomie aussi, puisque en tant que parents, ce qu'on veut, j'imagine en tout cas pour la plupart d'entre eux, c'est que son enfant il puisse être autonome à un moment.
Je reviens sur le permissif. Est-ce que vous pouvez, Roselyne, nous donner un exemple du quotidien sur... vous l'avez un peu effleuré, hein, mais peut-être un exemple plus concret.
Un enfant qui n'a pas envie d'être attaché dans son siège auto en voiture, qui crie, qui veut pas, qui hurle, et le parent qui part en voiture, qui roule, et en laissant l'enfant qui n'est pas attaché.
Ah oui, donc ça va loin.
Oui.
Ça va très loin.
C'est la définition du laxisme.
Quelles conséquences, de manière concrète, sur cette éducation-là ?
Ça va être des enfants qui vont manquer de repères et de confiance en eux aussi, parce que c'est un peu comme si tout était ouvert et il n'y a pas de contenant, en fait. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, entre guillemets.
Ce que j'entends entre les lignes de ce que vous nous racontez à présent, c'est finalement le cadre permet de se sentir en sécurité, n'est-ce pas ?
Le cadre est là tout à fait pour se sentir en sécurité. Le cadre, il est là pour montrer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et on voit aussi comment on peut compter sur son parent.
Et la question en fait, du cadre est en lien à mettre avec la question de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où, du coup, l'enfant a un cadre et il se sent, par conséquent, en sécurité ?
Il n'y a pas forcément d'exemple comme ça qui me viendrait à l'esprit, mais ça va être plutôt dans le comportement de l'enfant. Un enfant qui est en sécurité, c'est un enfant qui va être capable d'explorer et qui, justement, étant en sécurité, il est capable de construire son autonomie. Donc un enfant qui, au parc, va vouloir grimper sur les jeux, même si on s'imagine que c'est soi-disant pas de son âge, c'est qu'il a une base de sécurité suffisamment solide pour s'autoriser à faire ça.
Il y a une idée qui me vient, est-ce que par exemple la facilité d'expression en famille, si elle n'est pas présente, on peut imaginer que l'enfant ne se sente pas en sécurité pour s'ouvrir, pour parler, ou ça n'a rien à voir ?
Ça dépend ce que vous mettez derrière la facilité d'expression. C'est sûr que dans les familles où on va parler de ce qu'on ressent, où les émotions sont discutées, où on nomme les émotions de tous les membres de la famille, des adultes aussi, forcément, ça sera un environnement beaucoup plus sécure pour un enfant que si les émotions sont tues ou même réprimées.
On en a un petit peu parlé en souterrain, mais est-il important d'avoir des règles, et si oui, pourquoi, et lesquelles ?
Alors, oui, donc c'est important d'avoir les règles parce que l'être humain est un animal sociable et social. Donc nous évoluons dans une société avec des règles, donc c'est important d'en avoir lesquelles. Chaque famille a les siennes, au-delà de celles de la société. Mais il y a des familles où la règle, c'est de se laver les mains avant de passer à table, et dans certaines familles, on ne se lave pas les mains avant de passer à table.
Alors, est-ce que l'autorité est forcément synonyme de rigidité ?
Faut pas confondre autorité et autoritarisme. Et non, ça va. Enfin, autorité, c'est à rapprocher du cadre. Et le cadre, faut pas le voir comme quelque chose de fixe, mais quelque chose de souple. Et l'enfant, il grandit jour après jour, il apprend plein de choses, il se développe. On va même pas parler de l'adolescence, mais le cadre, il doit forcément évoluer avec les besoins de l'enfant, avec ses compétences, avec ses connaissances. Donc, c'est pas de la rigidité.
Et est-ce que ce qui compte, c'est la constance des parents ? Est-ce que ça vous semble important de placer cette colonne vertébrale qui est la constance, en tout cas la sécurité affective, au milieu de la relation parent-enfant?
La constance, c'est quelque chose de très important parce que l'enfant, il a besoin d'une figure stable. Alors, qui aussi écoute ses besoins? Parce que si on est constant, stable, en niant les besoins et les émotions de son enfant, ça va pas. Mais à partir du moment où on est à son écoute, oui, la stabilité, c'est quelque chose qui est important. Faut pas non plus mettre une trop grosse charge mentale, entre guillemets, sur les épaules des parents autour de cette constance, parce que les études montrent qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% des réponses parfaitement ajustées aux besoins de son enfant pour que son enfant se développe bien. C'est un chiffre qui est étonnamment beaucoup plus bas, que je vais pas citer pour pas dire de bêtises, mais en fait, la constance est un repère de sécurité aussi, donc oui, forcément.
La question de la charge mentale des parents dont vous venez d'évoquer, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien avec finalement des personnes qui se sentent en difficulté parce que se mettent une pression ou en tout cas un objectif inatteignable dans l'éducation de leur enfant?
J'en rencontre quelques-unes, et puis alors on va tout de suite dire qui se met la pression, ce sont les mères. Soyons clairs. La société aide bien dans ce sens aussi pour mettre la pression sur les mères.
Et qu'en est-il des pères dans cette...
Alors, il y a des pères qui sont super investis auprès de leur famille, qui prennent leur part, pas qui soutiennent la mère, non, qui prennent leur part réellement. Et il y a quand même toute la société qui trouve normal qu'une femme prenne un congé parental pour élever son enfant, mais qui regarde de travers le père qui fait pareil. J'ai dit, c'est pas les pères, ils sont pas à soutenir, ils ont à prendre leur part, parce qu'un père qui va sortir son enfant au parc, on va dire, oh, trop bien, c'est un bon papa. Personne ne dit à une maman qui sort son enfant au parc, trop bien, c'est une bonne maman. Donc, voilà.
Mais alors, pourquoi cette pression ou cette charge mentale est concentrée sur les femmes ?
Je pense que ça nous ferait l'objet d'une autre émission, parce que finalement c'est quelque chose de très culturel, historique, et c'est un peu la construction de base de notre société autour du système patriarcal.
Voilà, on est d'accord. Alors, une autre question, comment se poser des règles sans conflit ?
Alors, c'est aussi quelque chose de très culturel et un peu franco-français, je pense, de cette idée de s'il y a règle, attention, il pourrait y avoir conflit, pas forcément. Faut réfléchir à ces règles. Si la règle sort de nulle part et qu'elle a aucun intérêt, et qu'on a un enfant qui a appris à s'exprimer, alors, ça peut être pas forcément au sein de la famille, ça peut être par exemple au milieu scolaire. Il va discuter la règle parce qu'il la comprend pas. Donc, il peut y avoir conflit si l'adulte, par exemple, tient ses positions. Mais d'une manière générale, en famille, si on pose une règle qui est sensée et qui est importante, soit l'enfant adhère parce qu'il comprend, il n'y a pas de conflit, Et s'il adhère pas de suite à la règle, alors c'est probablement parce qu'il comprend pas, parce qu'il est pas d'accord. Il a le droit, quelque part, de pas être d'accord. Peut-être qu'il n'est pas capable de l'appliquer non plus. On attend beaucoup des enfants, souvent. Et il y a beaucoup de conflits qui découlent de ça. C'est qu'on a une attente très importante des enfants par rapport à leur capacité de stade de développement. Donc, il n'y a pas forcément de conflit. Et si le parent il trouve qu'il y a un conflit, c'est de sa responsabilité, parce que c'est lui l'adulte, et il a la responsabilité de pouvoir comprendre qu'est-ce qui génère ce conflit, et puis de démêler ça.
Et donc, pour nos auditeurs et nos auditrices, la question du conflit, au fait, qu'est-ce qu'un conflit finalement ?
Quand on n'est pas d'accord l'un avec l'autre.
Voilà, un premier regard, oui.
Et l'enfant a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui lui est imposé. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va forcément lui donner raison et aller dans son sens. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure de cet enfant qui n'était pas d'accord de s'attacher en voiture, il a le droit de ne pas vouloir. Sauf que dans les faits, il faut qu'il s'attache. Il n'a pas la capacité de comprendre à quel point c'est important de s'attacher en voiture.
Merci Roselyne, et je continue, c'est très intéressant tout ce que vous nous racontez, et j'ai une autre question, comment gérer les crises et les colères ?
Le chat noir de tous les parents des petits-enfants. Déjà, le regard qu'on porte sur la colère est déjà intéressant, parce que rien que dans la question « comment on gère les colères ?», ça suppose que la colère est un problème. Et la colère, c'est une émotion comme les autres. J'ai aucun parent qui vient me voir en me disant « comment je fais quand mon enfant est joyeux ?» C'est une émotion aussi comme une autre. Donc être en colère, c'est pas un problème en soi. Et finalement, quelle que soit la raison de la crise, il y a déjà une question à se poser, c'est est-ce que les besoins physiologiques de mon enfant sont satisfaits ? Est-ce qu'il n'est pas fatigué ? Est-ce qu'il n'a pas faim ? Est-ce qu'il n'a pas soif ? Il y a beaucoup de crises. Quand on regarde, ça va arriver après l'école, quand on récupère les enfants, ils ont encaissé toute la journée et ils n'en peuvent plus, ça décharge. 11h30, juste avant manger, parce qu'en fait, ils ont faim. Donc déjà, porter ce regard de finalement, qu'est-ce qui se passe là pour mon enfant en ce moment ? Ça aide aussi en tant que parent à ne pas monter soi-même trop vite dans les tours, puisque souvent c'est un peu le risque quand son enfant fait une crise. Et puis, pour la colère spécifiquement, la colère, c'est une émotion qui vient dire stop, je suis pas d'accord. Donc, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. On peut tout à fait entendre que l'enfant n'est pas d'accord. On va dire, bah oui, je vois mon histoire de l'enfant dans le siège auto. T'as vraiment pas envie de t'attacher, c'est pas forcément super agréable. Je peux comprendre. Moi aussi, ma ceinture, des fois, elle me gêne. Mais là, y a pas le choix. Donc, valider l'émotion, quelle qu'elle soit, c'est une base extrêmement importante.
Et j'ai envie de vous poser une question sur la problématique des écrans, mm-hmm. notamment pour les petits-enfants.
Oui.
Qu'en pensez-vous ?
Alors, il y a une réglementation, le 3-6-9, pas d'écran avant 3 ans. Ça, je pense que c'est des repères qui sont très importants. Après, entre 3 et 6 ans, il y a des programmes spécifiques, un temps, jamais seul, etc. C'est des repères qui sont très simples et très facilement à suivre. Après, chez les tout petits enfants, oui, ça pose des problèmes si les enfants ils passent leur temps devant les écrans. Moi, j'ai plutôt des parents d'ados qui sont dépités avec les écrans. Faut pas mettre tous les problèmes des ados sur le dos des écrans. Ça peut venir renforcer quelque chose, mais c'est pas forcément l'origine de tous les maux, les écrans. Mais chez les petits, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, en tout cas.
Par exemple, si un enfant boit son biberon le matin avant d'aller à la crèche devant un dessin animé, c'est forcément problématique, on est d'accord.
Bah oui, les auditeurs me verront pas soupirer, vont comprendre pas net. Oui, c'est très problématique parce que l'écran va aussi priver l'enfant d'interaction avec les êtres humains qu'il a autour de lui. Et on se construit aussi, et surtout, même j'ai envie de dire, dans les échanges.
Merci Roselyne. Avant de passer au témoignage d'Émilie, je vous propose d'écouter Slimane, La famille, ça va.
Ok, c'est vrai que le monde ne tourne pas rond, qu'on a l'impression d'être pris pour des cons, que toutes les belles promesses qu'on nous a faites sont souvent passées aux oubliettes. Ok, tu m'aimes et tu t'inquiètes pour moi. Je donne peu de nouvelles et souvent je te rappelle pas. Mais je bosse pour nous pour un jour te dire tiens. Les clés de ton pave avec son grand jardin. Te prends pas la tête pour moi. Te prends pas la tête pour moi. Te prends pas la tête pour moi. Prends pas la tête pour moi. Moi ça va bien. La famille ça va bien. Moi ça va bien. La famille ça va bien. Ok, parfois la vie ne m'a pas fait cadeau. Certains amis m'ont planté des couteaux dans le dos. Pourtant moi je leur avais tout donné. Ils ont bien pris, repris, se sont envolés. Ok, je doute de tout et d'un petit rien. Avec Blanche-Neige, je suis souvent le huitième nain. Tu sais, celui qui n'a jamais existé. Ou peut-être qu'on l'a tout juste oublié. Te prends pas la tête pour moi. Te prends pas la tête pour moi. Te prends pas la tête pour moi. Prends pas la tête pour moi. Moi ça va bien. La famille ça va bien. Moi ça va bien. La famille ça va bien.
Que rien ne va, je garde la tête haute. Même quand les fous sont à genoux et qu'ils se mettent à parler de nous, on garde la tête haute.
Bienvenue sur RDL 103.5 dans l'émission « Et sinon la famille ça va » avec nos invités Roselyne Wagner et Émilie. Aujourd'hui, on traite de parentalité. Alors, je me tourne vers vous, Émilie. Je serais très curieux de connaître votre ressenti suite à ce que nous a évoqué Roselyne.
Oui, alors ça m'évoque beaucoup de choses. J'ai envie de dire, est-ce que Roselyne, vous êtes passée chez moi? Voilà, en tout cas, il y avait vraiment la question du cadre qui m'a beaucoup parlé, parce qu'en vérité, au quotidien, c'est la question qu'on se pose tout le temps. Est-ce que j'étais trop sévère, pas assez? Est-ce que j'ai assez écouté mon enfant? Est-ce que je lui ai demandé suffisamment de choses? Est-ce que j'en ai accepté trop? Enfin, voilà. On ne sait jamais si on fait bien, en fait.
Et alors, avec Zoé, qui a 11 ans aujourd'hui, quel est votre plus grand défi? Est-ce que vous rencontrez un défi important avec votre enfant?
Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un défi majeur, en fait, mais que le quotidien est truffé de beaucoup de petits défis, en fait. Arriver à l'heure à l'école, hein, combien de fois on était au pas de course sur le chemin de l'école pour arriver avant que le portail ne se ferme, donc... Voilà, c'est réussir à mettre un repas équilibré sur la table tous les jours, enfin à peu près équilibré, voilà. Et je pense qu'on retrouve bien la question du temps, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à caser dans le quotidien. Comment on casse tout ça sans justement mettre la pression à notre enfant, voilà. Surtout quand on a une fille comme Zoé qui aime beaucoup prendre son temps. Donc voilà, on vit pas au même rythme, donc rien que ça, c'est un défi.
Alors, Émilie, est-ce que vous vous mettez la pression?
Oui, je pense que je me la mets de temps en temps encore, je me la suis mise peut-être plus déjà. Et c'est vrai, comme vous avez dit, Zoé, elle a 11 ans, et je deviens quand même vieille maman, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que avec le temps, on apprend à prendre du recul aussi, et que quand je regarde mon enfant maintenant, je me dis que ben, y a beaucoup de choses que j'aurais pensé faire d'une manière particulière. Enfin voilà, on a beaucoup de plans quand on est jeune parent, et au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les tenir, ces plans-là. Mais finalement, que c'est pas très grave parce que, voilà, comme je disais, quand je la vois, je me dis qu'elle va pas si mal que ça. C'est une enfant sereine qui est plutôt en bonne santé. On n'a pas eu au quotidien des colères, des conflits. Voilà, donc je pense qu'il faut juste savoir prendre un peu de recul et prendre effectivement le temps qu'il faut pour écouter son enfant et se comprendre, en fait. Et c'est ça qui fait vraiment défaut dans notre société où tout va très vite. Faut prendre le temps d'écouter et d'essayer de comprendre son enfant. Mmh. Et si ça, on le fait, en fait, de ça découle énormément de choses.
Roselyne, vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais juste rebondir sur le fait qu'on a des plans quand on est jeune parent qu'on ne tient pas souvent. Il y a une petite maxime qui dit « Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ».
C'est bien ça.
Donc on continue. Est-ce que, Émilie, il y a un moment où vous vous êtes sentie dépassée, où là, vous vous êtes dit oh, « ben là, je ne sais plus, je ne sais plus comment faire, help, à l'aide ». Et dans ces moments-là, comment intervient votre conjoint? Donc je précise que vous vivez en couple. Hein. Et donc comment ça se passe dans ces moments où vous vous sentez en fragilité ou en vulnérabilité plutôt?
Ben, c'est un petit peu la même réponse qu'à la question précédente. C'est un peu tous les jours aussi qu'on se sent dépassé. Et oui, comme vous le soulignez, de vivre en couple, c'est vraiment une aide. Parce que comme disait Roselyne avant, je ressens assez bien ce côté de la charge mentale et de l'organisation de notre société où la femme est peut-être plutôt d'en gérer beaucoup de choses, mais de l'ordre du détail, de, comme dit, d'arriver à l'heure, d'avoir fait les courses, voilà, qui en fait n'ont pas tant d'impact que ça que sur notre enfant. Et d'être en couple, ça permet effectivement de relativiser, de prendre du recul. Et c'est peut-être ça, effectivement, le rôle de mon mari et l'aide qu'il m'apporte. C'est que quand moi, je repars un peu, quand je tourne un peu comme une souris dans sa roue et que je pars à quatrième vitesse et que j'oublie l'essentiel, mais que je gère les corvées du quotidien, voilà, lui, c'est vraiment remettre les choses à leur place et amener ce recul nécessaire. Voilà.
Et alors, aujourd'hui, quand vous regardez votre petite fille de 11 ans, donc Zoé, quel regard vous portez sur ce chemin parcouru?
J'en suis plutôt fière au final. Je trouve que c'est une petite fille épanouie, plein de joie de vivre, qui a ce goût justement d'explorer. Voilà, qui du coup peut-être...
Donc, une enfance sécure, c'est ça?
Voilà. Une enfance sécure, voilà.
On voit
j'espère,
pas Roselyne,
je
mais
pense.
C'est, voilà, elle l'opine du chef.
Ok.
Oui, donc je disais, quel regard vous portez en fait sur ces 11 ans de vie commune avec votre enfant, plus ces 9 mois quand même, est-ce que ça compte? Donc vous me disiez, voilà, dans la préparation de l'émission, que voilà, vous étiez, qu'elle va pas si mal. Ce que j'entends entre les lignes, c'est finalement elle va bien.
Exactement.
Elle va bien, votre fille. Et alors, une question un peu comme ça, spontanée, qui me vient. Qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre à votre enfant? Alors, vous, en tant que femme, mais aussi en tant que mère.
Alors, dans les grandes valeurs, moi, c'est effectivement le respect de soi et le respect des autres. Et c'est là où, en fait, effectivement, tous les petits détails du quotidien, ils sont pas très important parce que ils ne font que traduire des valeurs plus larges qu'on essaie de transmettre. Donc c'est pas les actes mis bout à bout, mais derrière les actes, effectivement, je trouve ça important d'avoir en tête quelles valeurs on a envie de transmettre à notre enfant. Et ça, c'est très aidant, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui vous aide au quotidien pour transmettre toutes ces valeurs à votre enfant?
Alors, on a déjà évoqué la vie en couple. Hein. C'est vrai que d'être deux, ça permet de s'épauler, ça permet d'avoir du relais. Donc, très important. Et après, les pauses en famille, ça rejoint la question du temps. Il y a forcément des moments où c'était un peu plus compliqué dans la vie de famille, où on se sentait pas trop sur la même longueur d'onde. Et à chaque fois, on faisait le même constat, c'est qu'on prenait plus le temps. On était chacun parti un peu dans notre vie, l'un avec son travail, l'autre avec le sien, les enfants qui rejoignent les copains, et on ne crée plus tellement de temps en famille. Et quand on prend conscience de ça et qu'on se repose ensemble, en fait, ça permet de nouveau de réguler les choses, et on se rend compte que tout va mieux et tout va plus facilement quand on s'entend bien et qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait.
Pouvez-vous me donner, pour qu'on soit concret, qu'est-ce que vous appelez des temps ou des pauses en famille?
Ça peut être faire des activités ensemble, mais justement hors du quotidien. C'est pas aider à faire les devoirs, c'est pas courir au magasin ensemble, etc. C'est s'arrêter.
Faire du vélo, par exemple.
Faire du vélo, roller. Faire une balade dans la nature. Parfois, c'est peut-être aussi juste s'asseoir sur le canapé, regarder un film, hein, même si on parlait du temps d'écran avant, tout n'est pas mauvais. Mais c'est faire une activité gratuite où on prend le temps de discuter, de se regarder, de faire ensemble ce qui fait plaisir à l'autre. Et de partager des émotions et des temps positifs, en fait.
Et alors, une question aussi du quotidien, par exemple, l'heure des devoirs ou l'heure des écrans, on en a parlé avant, mais l'heure des repas aussi. Comment ça s'articule dans votre unité familiale?
Alors, j'ai envie de dire que de jour en jour, c'est plus simple parce que, à 11 ans, l'enfant, il devient un petit peu autonome. Donc, la Zoé essaie de gérer ses devoirs toute seule, mais il faut avoir un regard attentif quand même. De temps en temps, demander est-ce que tu t'es bien préoccupé d'ouvrir ton agenda, de regarder ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu vas avoir le temps de tout faire? C'est moins une aide concrète, mais une présence attentive, en fait. Et par ce biais-là, on montre, je pense à notre enfant, qu'on s'intéresse à lui, qu'on a confiance en lui, et on est présent sans faire forcément.
Mais vous êtes là.
Mais on est là. Et je pense que c'est ce qui est peut-être le plus important, de montrer qu'on est là et qu'on est intéressé par sa vie, par ce qui se passe, par ses préoccupations.
Roselyne, on parle bien de présence active, parce qu'on peut être là, mais sans être là.
Ah, si le parent il est en train de scroller sur son téléphone, oui, il est là sans être là. Et ce que dit Émilie est très juste, cette idée de présence. Et ce qu'on disait en début d'émission, ce qui est important pour l'enfant, c'est de savoir qu'il y a le parent qui est là et on peut compter sur lui. Zoé, elle est grande, elle gère pas mal toute seule ses devoirs, mais par la présence qu'elle a là, quelque part en filigrane de ses parents, elle sait qu'elle peut compter sur eux pour quelque chose, entre guillemets, d'aussi anodin que les devoirs, mais ça veut dire qu'elle peut compter sur eux pour tout autre sujet qui serait d'une plus grande envergure.
J'ai une dernière question, Roselyne, concernant le coucher. Comment gérer, en fait, un refus de se coucher? Ça peut être des petits-enfants, mais aussi des plus grands.
Alors voilà, j'allais dire déjà, enfin, on peut pas faire une réponse unique parce qu'en fonction de l'âge, ça va être évidemment complètement différent. On parle des enfants plus grands, il y a quelque chose qui est à prendre en considération, c'est la physiologie chez l'adolescent. Il y a ce qu'on appelle un retard de phase où naturellement les adolescents vont se coucher plus tard, donc se lever plus tard, et on est d'accord, avec des cours qui commencent à 8h, ça pose problème, mais pour autant c'est pas la peine de les mettre au lit à 20h, ça ne marchera pas. Donc comment gérer le coucher? J'ai envie de dire, finalement, c'est des choses qui vont, c'est comme des graines qu'on va semer tout au long de la vie de famille, tout au long de la croissance de l'enfant, de pouvoir, par exemple, quand il est petit, lui apprendre à reconnaître les signes de fatigue, à montrer que le coucher, c'est un moment agréable. Donc, Par exemple, l'idée de « si t'es pas sage, tu vas au lit », c'est complètement antinomique avec ça. Et voilà, je peux pas donner une réponse aussi simple que ça, parce que derrière un refus d'aller coucher, il peut y avoir aussi tellement de causes différentes.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de causes en fonction des différences d'âge ?
Eh ben, ça peut être un enfant qui a peur d'être tout seul dans sa chambre. Ça peut être un enfant qui ne voit pas assez ses parents dans la journée et qui a envie de passer du temps avec le soir. Ça peut être un moment où il y a eu une journée compliquée ou une période compliquée, par exemple à l'école, et il a besoin de faire le plein, de remplir son réservoir affectif en restant auprès des enfants. Ça peut être parce que aller se coucher, ça veut dire que demain va arriver et que peut-être le lendemain il se passe un truc qui est pas super chouette qu'on n'a pas envie de voir venir. Ça peut être tellement de choses.
Alors je reprends votre expression remplir le réservoir affectif et je fais le lien avec les rituels. Ouais. Est-ce que chez vous, Émilie, par exemple, le soir vous racontez une histoire à votre enfant ?
Alors on l'a beaucoup fait quand elle était petite. C'était tous les soirs. Maintenant, il y a quand même un rituel, c'est-à-dire que il y a la toilette du soir, elle se brosse les dents, encore une fois, elle est autonome. Mais c'est vrai que quand elle se couche, il y a tous les soirs un passage dans sa chambre où on se prend le temps de dire bonne nuit, de se faire un bisou, voilà, de se dire à demain aussi. Et voilà, parfois on se dit ça va être une chouette journée demain, on évoque un peu ce qui se passe demain. C'est pas conscient en fait, mais c'est vrai que maintenant que vous posez la question, il y a des rituels même s'ils sont pas conscientisés.
Est-ce que le soir est le moment des confidences?
Ah oui. Et j'ai envie de dire, entre le moment où on prononce le mot « on va se coucher » et le moment où Zoé est réellement lit, se passe souvent une heure de temps. Et le soir, c'est là où elle a plein de choses à raconter. En journée, elle a parfois pas trop le temps parce qu'il faut aller jouer avec les copines dehors. Et oui, c'est vrai que le soir, c'est peut-être justement un moyen de faire durer le temps du coucher. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui s'échangent le soir avant l'endormissement.
Roselyne, est-ce que dans votre vécu de professionnel, cette question du rituel du soir, du coucher, est-ce que vous avez observé que ce sont plutôt les femmes qui sont en charge de ça, de ce rituel, ou il y a un égal travail entre les hommes?
C'est assez variable dans les familles, mais j'ai quand même l'impression, en tout cas de ce que moi je rencontre, les pères aussi viennent participer au coucher, ou en tout cas les deux parents, quand c'est un couple homoparental, les deux parents en général, s'ils peuvent, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de parents qui ont des postes en travail décalé, pardon. Donc là, se pose aussi la question de « j'ai pas vu, je verrai pas maman, je verrai pas papa ce soir », qui peut aussi être un refus d'aller se coucher quand le parent finit son poste à 22h et que l'enfant reste debout pour attendre son parent.
Merci à toutes les deux pour vos témoignages de professionnels et de maman.
Merci.
Encore joyeux anniversaire à Zoé, qui a 11 ans aujourd'hui. Voilà, donc être parent ne vient pas avec un mode d'emploi. Ça, on l'a découvert et on l'a dit tout au long de l'émission. Mais chaque jour, en fait, il y a une occasion d'apprendre avec son enfant. Et j'imagine que c'est son enfant qui aussi apprend aussi avec son parent. Donc, voilà. Pour clore cette émission, d'abord, vous remercie une deuxième fois. Et puis, je voudrais, Roselyne, passer à votre actualité. Dites-nous, j'ai cru comprendre qu'il y avait une projection de film au cinéma d'Erstein.
C'est ça. Le samedi 30 mai à 16h30, le cinéma d'Erstein va projeter le film « Même qu'on est imbattable ». Et c'est un film qui nous emmène à la rencontre d'une génération de parents en Suède, la première génération qui a été éduquée sans violence, puisque la Suède a quand même un grand passif et beau passif dans le droit des enfants. Donc ce film sera projeté, il sera suivi d'un échange avec le public qui sera animé par Aude Bruckert, qui est puéricultrice, et par moi-même.
D'accord. La date ?
Samedi 30 mai, à 16h30.
Merci. Où est-ce qu'on, est-ce qu'il faut réserver
ou... Non, pas, alors on peut réserver en ligne sur le site du cinéma d'Erstein à partir du 25 mai à peu près, courant de semaine, mais c'est pas la peine, on peut se présenter directement au guichet pour prendre son ticket de cinéma.
Merci bien, merci à Roselyne. Donc la prochaine émission évoquera le rapport à la nourriture et les repas en famille à travers les époques jusqu'à aujourd'hui. Je serai accompagné pour ce temps d'échange par Alexandre Roche, un jeune historien colmarien, et Elsa Mauguin, naturopathe à Ribeauvillé. Merci à nos invités, Roselyne et Émilie. À la technique aujourd'hui, Peggy, que je remercie chaleureusement. Merci aussi à Christine, qui anime aussi l'émission Coup de théâtre, ici sur RDL, d'avoir accepté d'être présente en regard extérieur pour cette première émission.
Et sinon la famille, ça va, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon retour dans votre arbre généalogique et attention au courant d'air entre les branches.